Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. C'est inédit dans l'histoire de l'Europe. L'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine, en plus d'une série de sanctions très fortes contre la Russie. Les médias RT et Sputnik sont bannis de l'Union européenne, annonce à l'instant d'Ursula von Leyen. Nous serons à Bruxelles dès le début de ce journal. Vladimir Poutine, lui, agite la menace nucléaire. La Russie annonce qu'elle met en alerte sa force de dissuasion. Est-ce une stratégie de communication alors que des pourparlers ont commencé entre Russes et Ukrainiens? Nous irons à Moscou. Et puis au quatrième jour de la guerre en Ukraine, Kharkiv, la deuxième ville du pays, résiste. Vous entendrez le témoignage de Jenia, terrée avec sa famille. Dans le reste de l'actualité, les Français s'apprêtent à tomber le masque demain dans les lieux soumis au pass vaccinal. Et puis un lundi au soleil, c'est ce que nous promet Jean-Michel Golinski de Météo France à la fin de ce journal.
France Inter.
Le monde a les yeux braqués sur la Russie et l'Ukraine encore ce soir, après les mots du président russe qui crée la sidération et l'effroi, et c'est sans doute l'effet recherché. Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il a annoncé cet après-midi qu'il mettait en alerte la force de dissuasion russe, c'est-à-dire notamment ses armes nucléaires. Et l'Union européenne réagit très fortement ce soir. Pour la première fois, les 27 annoncent qu'ils vont financer l'achat et la livraison d'armes pour l'Ukraine. Nous rejoignons à Bruxelles notre correspondante Angélique Bouin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Et c'est un niveau de sanction inédit, Angélique.
Oui, c'est un moment décisif pour l'Union, a insisté la présidente de la Commission européenne dans sa déclaration assez solennelle, je dois dire. En pratique, c'est la Commission qui rembourserait via l'un de ses programmes de crise les sommes déjà engagées par exemple par les États membres pour envoyer, on le sait depuis quelques jours, des missiles, des fusils et d'autres équipements aux Ukrainiens. Les 27 se sont également mis d'accord cet après-midi pour fermer l'intégralité de leur espace aérien aux Russes. Cela inclut les jets privés des oligarques. Enfin, autre étape sans précédent, dit aussi Ursula von der Leyen. Les médias d'État russes, Russia Today et Sputnik, utilisés, a-t-elle dit, pour diffuser les mensonges de Poutine, vont être interdits de diffusion en Europe. Elle annonce enfin un renforcement des sanctions contre la Biélorussie, alliée de Moscou, des mesures sectorielles. On va toucher les exportations de minéraux, tabac, bois, ciment, fer et acier. Des sanctions, rappelons-le, que les 27 n'avaient jamais osé prendre. Tout cela s'ajoute aussi aux mesures annoncées la nuit dernière, qui sont encore en cours de finalisation juridique, qui concerne la déconnexion annoncée d'une partie des banques russes du système interbancaire SWIFT et qui vise également à empêcher Vladimir Poutine de disposer de ses milliards entreposés dans la banque centrale russe.
Merci beaucoup Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Évidemment, on reviendra à 19h sur ce nouveau train de sanctions décidé par les Européens. Pour l'instant, nous rejoignons notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet. Bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Alors la question qu'on se pose ce soir, Sylvain, c'est évidemment trop tôt pour avoir la réaction des Russes à ces sanctions. Mais pourquoi Vladimir Poutine agit-il la menace nucléaire alors que dans le même temps, les Russes, on l'a appris cet après-midi, ont commencé à négocier avec les Ukrainiens des pourparlers qui viennent de commencer à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, Sylvain?
Bon, c'est toujours un peu finalement la même stratégie des Russes, de souffler le chaud et le froid dans cette crise. Effectivement, les deux délégations sont arrivées sur place pour négocier, mais il convient de rester très prudent sur l'issue de ces pourparlers. D'un côté, Moscou n'a pas du tout infléchi son discours. De l'autre, les Ukrainiens et leur ministre des Affaires étrangères ont expliqué qu'ils n'y allaient pas pour signer leur reddition. Nous ne céderons pas un seul centimètre de notre territoire, a assuré Dmytro Kouleba. Et puis, ce qui est significatif, c'est que une nouvelle fois, le pouvoir russe a mis en scène à la télévision cette annonce de Vladimir Poutine, pourtant hautement sensible, stratégique. On a pu le voir face à ses principaux chefs militaires, disant « J'ordonne au ministre de la Défense, au chef d'état-major, de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat », c'est-à-dire le niveau d'alerte le plus élevé. Au fond, quelque part, après avoir agité les mots, et Vladimir Poutine passe aux actes. Il faut se souvenir que il avait commencé à agiter cette menace nucléaire il y a un peu plus de 2 semaines, lorsqu'Emmanuel Macron était venu, lors de leur conférence de presse commune. Il avait dit « Certes, nous n'avons pas le potentiel militaire de l'OTAN, mais, a-t-il ajouté, il ne faudrait pas oublier que nous sommes une puissance nucléaire ».
Merci beaucoup Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou. Et sur le terrain en Ukraine, l'offensive russe semble ne pas avancer aussi vite que l'espérait le président Poutine. La bataille aujourd'hui se concentre sur la ville de Kharkiv au nord-est du pays. Les forces russes sont entrées ce matin, mais les Ukrainiens ont riposté. Et selon le gouverneur régional, Kharkiv est toujours sous contrôle des forces ukrainiennes. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Vous avez pu joindre Jenia, elle était résidente française depuis 10 ans et elle a décidé de rejoindre sa famille à Kharkiv.
Et Jenia est désormais calfeutrée dans l'appartement familial avec ses deux cousines.
On a éteint la lumière, on a fermé des fenêtres, on est plus vers la porte, vers la sortie. On peut toujours descendre, on a une cave sous l'immeuble.
Depuis la nuit dernière, c'est encore plus compliqué. Les chars russes, vous l'avez dit, sont entrés dans Kharkiv. Il y a beaucoup de dégâts, des barricades et les combats se font maintenant dans les rues, au pied de son immeuble.
Les opérations militaires sont très intenses. L'armée ukrainienne tient ses positions et on entend toujours toute la journée des explosions par-ci, par-là, des tirs, de la canonnade. Là, on entend des tirs en ville, en centre-ville. Ça veut dire qu'il y a des opérations militaires en ce moment.
Jenia et ses cousines ont pu sortir à deux reprises, jeudi et vendredi. La trentenaire décrit l'organisation des civils quand ils ne prennent pas les armes pour défendre la ville. Ils aident les soldats ukrainiens.
Pour la première chose, on s'est rendu au service du sang. Il y avait des queues partout, mais pour nous, c'était une moindre de choses qu'on pouvait faire. Après, on a acheté de la nourriture pour les blessés, pour l'hôpital militaire régional, de l'eau surtout. On a aussi pu faire quelques courses pour nous et on est rentré avec des sirènes.
Kharkiv est sous couvre-feu, mais Jenia l'assure, dès que les sirènes s'arrêteront, elle apportera des provisions à se cacher dans le métro. Face à une telle résistance, je n'imagine pas Poutine gagner, nous confie-t-elle avant de raccrocher.
Merci beaucoup Marion Ferrer, et voilà tout ce qu'on pouvait dire à 18h07 sur la situation en Ukraine et en Russie. On y revient bien sûr longuement dans le Téléphone Sonne spécial ce soir présenté par Claire Servageon. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation avec la cellule investigation de Radio France. Une enquête nommée Ericsson List. Les journalistes ont eu accès à un rapport secret du géant suédois des télécoms. Il révèle l'existence d'un vaste réseau mondial de corruption, plusieurs dizaines de millions de dollars de pots de vin et cadeaux distribués dans de nombreux pays. Ericsson a notamment payé l'État islamique pour pouvoir continuer de travailler en Irak. La liste Ericsson, on y revient dans le journal de 19h, enquête à retrouver dès à présent sur franceinter.fr. François Bayrou accorde son parrainage à Marine Le Pen au nom de la démocratie. Le président du Modem et maire de Pau est à l'origine d'une banque des parrainages qui regroupe près de 400 élus pour aider les candidats qui sont à la peine pour rassembler 500 signatures. On rappelle qu'ils ont jusqu'au 4 mars. Les Français s'apprêtent à tomber le masque demain dans les lieux soumis au pass vaccinal. L'épidémie de Covid reflue, on pourra donc enlever le masque dans les bars, restaurants, cinémas et salles de concert. Un soulagement pour Tiffaine, serveuse dans un restaurant à Chambéry.
Il était temps, autant pour nous que pour les clients. C'est extrêmement lourd parce que ça nous enlève tout moyen de communication avec les clients. Tout passe énormément par les expressions, par le partage à travers ne serait-ce qu'un sourire. Et ne serait-ce que de ne plus pouvoir montrer ça auprès des gens, ça change énormément de choses. Donc je trouve que c'est bien mieux pour le relationnel entre serveur et client. Puis même nous, ça nous a miné le moral en fait de travailler avec ce masque. En termes de confort de travail, ne serait-ce que de soulever des charges lourdes avec un masque, c'est juste l'enfer. Donc nous, on va gagner en qualité de confort de travail, on va dire. Et puis pour les clients, je pense aussi que ça devenait ridicule de devoir remettre le masque, se lever pour aller aux toilettes ou pour venir régler. Ça devenait assez ridicule en fait de devoir circuler avec un masque alors qu'on est tous assis sans le masque. Donc je pense que ça va être plus léger pour tout le monde comme ambiance.
Tiffaine au micro de Colline Mollard de France Bleu, Pays de Savoie. On précise que le masque reste obligatoire dans les transports et dans les lieux clos non soumis au pass comme les commerces.